Nous sommes à 1 Timothée chapitre 2. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps, et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Je vous rappelle que nous prenons cette épître à Timothée, qui est un jeune pasteur, auquel Paul donne des conseils inspirés par le Saint-Esprit. Et nous voyons cette lettre à travers un prisme, c'est celui des choses qui comptent vraiment. Qu'est-ce qui compte vraiment dans la foi, dans la vie? Et là, il est clair qu'il s'agit de la prière. Et pourtant, combien de chrétiens négligent leur vie de prière? J'ai lu il y a bien longtemps le livre d'Adolphe Monod, « Les adieux », qui ont été des discours qu'il a prononcés sur son lit de maladie et de mort, le dimanche matin, lorsque des chrétiens venaient dans sa chambre pour prier et louer le Seigneur avec lui. Et il donnait toujours un petit message, une petite allocution, sauf que comme il savait qu'il était proche de la mort, ça revêtait une profondeur et une solennité particulière. Et donc c'est retranscrit dans un livre qui s'appelle « Les adieux ». Et un des sujets qu'il prend, c'est la prière, et il dit « Nous sommes tous remplis de regrets par rapport à notre vie de prière. » Il dit « Moi le premier, qui vais bientôt mourir, je me rends compte que j'ai négligé la prière. » Alors c'est terrible parce que quand vous allez mourir, vous ne pouvez plus vous rattraper. C'est trop tard quelque part. Tandis que nous, qui l'écoutons ou qui le lisons, nous avons cette chance. Pour l'instant, nous n'allons pas mourir, nous ne sommes pas atteints d'une maladie mortelle, en tout cas, nous n'allons pas mourir de façon imminente, sauf accident. Et donc, on peut encore se rattraper. Si on a négligé notre vie de prière, on peut encore se rattraper. Pourquoi est-ce qu'on néglige la prière? Parce que la prière en elle-même ne paye pas de mine, c'est-à-dire vous êtes tout seul d'abord, dans votre chambre ou dans votre lieu de prière, vous mettez debout, à genoux, assis, peu importe, et là, vous êtes pendant plusieurs minutes à parler avec un être invisible, vous lui demandez des choses, et c'est tout. Nous, on préfère l'action, on se dit, mais il faut agir, il faut faire des choses, il faut distribuer, il faut bricoler, il faut... Et la prière, ça a l'air d'être l'inverse de l'action. Or, nous voyons dans toute la Bible que la prière, c'est l'action du chrétien la plus puissante qui soit. Parce qu'à travers la prière, il bouge le bras de Dieu et les âmes peuvent même être sauvées, puisque ici, il parle de la prière, de l'intercession pour les hommes, pour leur salut. J'exhorte donc à faire des prières, et il dit, j'exhorte donc avant toute chose. Quelle est la réunion la plus importante dans l'Église? Voilà, vous avez deviné, mais c'est la réunion de prière. Parce que c'est là qu'on voit la réalité de la foi, et c'est là qu'on demande à Dieu sa grâce. Bien sûr, les autres réunions sont d'égale importance, on pourrait dire, mais si on manque la réunion de prière, s'il n'y a pas de réunion de prière, même il y a des églises où ce n'est pas du tout dans l'agenda, il y a quelque chose de vital qui manque. Ce lien avec Dieu, lorsque Dieu parle aux chrétiens qui prient. Avant toute chose, je vous exhorte. Qu'est-ce qui compte vraiment? C'est la prière, de demander, de parler à Dieu. Et dans ce premier verset, il décline la prière en plusieurs choses. Il dit des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce. Les mots qu'il emploie sont très précis. Le mot prière est le mot générique ou général qui veut dire demande, demander. Prier, c'est premièrement demander. D'ailleurs, quand on dit « je vous prie », hein, ça veut dire « je vous demande ». Et souvent, on oublie ça. Il y a des personnes qui ne demandent jamais à Dieu parce qu'ils disent « mais je ne veux pas déranger le Seigneur ». Ou « qui suis-je pour lui demander quelque chose ?» Et puis « je ne veux pas avoir l'air d'être tout le temps en train de demander ». C'est vrai qu'il y a l'autre extrême, des personnes qui n'ont jamais de vraie communion avec Dieu. Tout ce qu'ils font dans la prière, ils ont une liste. Alors, Seigneur, voilà de quoi j'ai besoin. C'est comme lorsqu'on fait ses courses. Hein. On arrive au magasin, alors j'ai besoin de lait, de farine, de sucre. Ils arrivent devant Dieu avec leur liste. Seigneur, voilà, tac, tac, tac. Merci d'avance et à bientôt. Ça n'est pas la prière, non plus. Mais prier, c'est quand même premièrement demander à son Père. Et c'est la relation normale d'un enfant avec son papa. Seigneur, tu es mon Père. Tu veux m'exaucer parce que Dieu aime nous exaucer. Un père, ou une mère hein, aussi, aime faire plaisir à ses enfants, enfin je pense. On aime un peu les gâter des fois, mais on aime pouvoir répondre à leurs besoins, qu'ils soient heureux, qu'ils soient épanouis. Et c'est la même chose avec notre Père Céleste. Il veut répondre. Le mot « supplication » est un mot là dont la racine veut dire « demander », là aussi, « désirer », même mendier. L'idée de supplier, hein, on la retrouve chez les mendiants. Je pense toujours à cet aveugle sur le chemin où Jésus passait et qui crie « Ô fils de David, aie pitié de moi. Aie pitié de moi, fils de David. » Et il crie et il crie et il crie jusqu'à ce que les apôtres viennent le voir et disent « Écoute, tais-toi, le Seigneur est occupé. Tu vois bien que tu le déranges à crier. Tu vas réveiller, ameuter tout le quartier. » Et en fait, Jésus vient voir cet aveugle et lui dit « Qu'est-ce que tu veux que je te fasse ?» Ça, c'est une image de la prière extraordinaire. « Que veux-tu que je te fasse ?» Et l'aveugle dit « Je veux recouvrer la vue, je veux voir. » La supplication, c'est cette idée de demander avec intensité. Quand on est enfant, pour reprendre l'image de l'enfant avec son père, des fois on a envie d'un jouet ou d'une chose. Quand on est enfant, on veut un jouet. Quand on est adolescent, on veut un vêtement. Ah, je veux les tennis que porte machin. Je veux la veste d'une telle, de telle chanteuse ou je ne sais pas quoi. Et alors on va casser les pieds et la tête à ses parents. Mais des fois, ce n'est juste qu'un caprice. C'est-à-dire, on l'a vu, on le veut et puis... Si on ne vous le donne pas tout de suite, on oublie. Et c'est un bon test d'ailleurs pour savoir si votre enfant veut vraiment une chose. Est-ce qu'il le demande à long terme? Est-ce que 2 semaines plus tard, il continue de le demander? On avait vu ça avec notre fils quand il voulait la poupée de Buzz l'éclair dans le film Toy Story. Et il avait dit « Je veux Buzz l'éclair ». Et on lui a dit, on a cherché dans les magasins de jouets, ça n'existait pas. Donc on lui a dit, Philippe, ça n'existe pas. Et on a cherché, ça n'existe pas. Donc lui, il était très déçu. Puis tous lesquels qui venaient nous voir, ils disaient, je veux Buzz l'éclair. On dit, Philippe, ça n'existe pas. Au point qu'il nous a agacés, parce qu'on a dit, écoute, est-ce que tu comprends l'idée, ça n'existe pas? Alors il répétait, ça n'existe pas. Je veux Buzz l'éclair. Et puis on a découvert qu'il y a, en fait, ce n'est vendu que dans un seul magasin, les magasins de la marque, que je ne citerai pas. Et donc, on l'a trouvé, et le jour de Noël, il ouvre son paquet, et qu'est-ce qu'il voit? Buzz l'éclair. Et il dit, ça existe. Hein? Ça existe. On était presque émus, parce qu'il avait persévéré avec une foi absolue dans ses parents, il dit, je veux Buzz l'éclair. Ça, c'est au niveau d'un enfant, mais à notre niveau, envers notre Père Céleste. Dieu teste parfois notre persévérance et notre foi et notre désir. On demande des choses extraordinaires parfois, et puis une semaine plus tard, on a complètement oublié, on passe à autre chose. Comment voulez-vous que Dieu exauce ce genre de prière? Il demande une supplication, c'est-à-dire on est dans l'intensité, on est presque dans les larmes parfois, pour dire « Seigneur, c'est ça qu'il faut, qu'il nous faut. Je prie pour telle personne, elle a besoin de cela. » Et je ne dis pas qu'il faut prier égoïstement seulement pour soi. Hein. Au contraire, on doit prier pour les autres, mais avec intensité. Et puis, le mot « requête » n'est pas très juste, je trouve, parce que le mot là, en grec, c'est l'idée d'une rencontre, d'une entrevue avec Dieu. Faites une rencontre avec Dieu. Et ça, c'est la prière aussi. Parce que si on ne rencontre pas Dieu, la prière n'a pas de sens. Encore une fois, on fait ses courses. J'avais bien aimé lorsque le frère Luc, qu'on a connu il y a un certain temps, avait fait un message sur rentrer dans la présence de Dieu. C'était très intéressant, je n'avais jamais entendu une chose comme ça. Il dit, quand on prie, on doit prendre un certain temps pour entrer dans la présence de Dieu. Non pas qu'il faille du temps pour y arriver, parce que la Bible dit qu'avec Jésus qui est mort pour nous, nous avons une libre entrée dans la présence. L'entrée est libre, mais c'est pour que nous réalisions que nous prions le Dieu vivant, le Dieu trois fois saint. On n'entre pas dans la présence de Dieu comme ça et on dit « Bon, alors voilà mon problème, écoute, il faut que je te dise. » Non, Dieu n'est pas notre copain ou je ne sais pas quoi, ou un répondeur téléphonique. Il est le Dieu vivant, notre Père céleste, et il veut qu'on ait cette entrevue avec lui. Si vous aviez une entrevue avec le président de la République, vous prendriez un certain nombre de préparations et vous prépareriez ce que vous allez dire. Qu'est-ce que je vais bien lui dire? Voilà ma requête. Je suis venu présenter une requête. Je pense que vous répéteriez pendant des heures et des heures jusqu'à ce que ce soit mémorisé. Mais c'est un peu pareil avec Dieu. Je vais avoir une entrevue avec le Créateur, le Dieu vivant, mon Père céleste. Les actions de grâce, c'est une façon de dire remercier, hein, les remerciements. Mais pourquoi ça s'appelle action de grâce? Parce qu'en grec, c'est l'Eucharistie. Eucharistie. Moi, j'ai connu l'Eucharistie à l'Église catholique. L'Eucharistie, c'était le moment où on prend l'hostie pendant l'Eucharistie. Bon. Mais en fait, Eucharistie, ça ne veut pas dire prendre l'hostie, ça veut dire rendre grâce, remercier. Littéralement, ça veut dire bonne grâce. D'ailleurs, le mot merci en français, ça vient du latin mercem, et c'est la racine qui veut dire grâce, faveur. Dire merci, c'est dire grâce. D'ailleurs, on dit, hein, pouvez-vous dire les grâces ou pouvez-vous rendre grâce pour le repas? C'est reconnaître la grâce et les grâces de Dieu. C'est ça, dire merci. En anglais, mercy, hein, la miséricorde, c'est un peu proche aussi. C'est cette même racine. Et quand on prie, on doit reconnaître la grâce de Dieu. D'abord, c'est par grâce que Dieu nous écoute. C'est par grâce que Dieu nous exauce. Aucun chrétien, même s'il est le plus fidèle, le plus pur, ne mérite d'être exaucé. La prière est toujours une grâce de Dieu. Et souvent, il répond au-delà de nos prières, parce que Dieu est un Dieu de grâce. Et puis, au verset 2, il dit « Priez pour les rois et tous ceux qui sont élevés en dignité. » Quand on visite les États-Unis, on est frappé par le nombre de chrétiens qui prient pour leurs autorités, prient pour leur président, pour leurs députés, leurs sénateurs, pour la police, pour les pompiers, et certains prient aussi pour le personnel médical, pour les infirmières, les médecins. Et je trouve ça très, très biblique d'abord, et très sain, parce que ces personnes sont là pour nous protéger, normalement. Et ce serait bien que certains jeunes dans les cités apprennent à prier pour les pompiers et pour la police, par exemple. J'étais frappé qu'on puisse attaquer des pompiers. Ils ont tendu des pièges à des pompiers, ils ont mis des feux près de locaux électriques ou des feux dangereux pour faire venir les pompiers et qu'ils puissent avoir une explosion, un accident. Je ne comprends pas comment on peut être pervers à ce point. Les pompiers sont des gens très dévoués hein, pour sauver leur prochain. Pareil, les infirmières, les médecins. Et c'est bon de prier aussi pour les rois et les autorités. Et là, on a souvent du mal parce que, particulièrement en France, on est élevé dans cette méfiance envers l'autorité. Et il y a une énorme crise d'autorité dans le pays. Et les enfants deviennent violents ou totalement irresponsables parce qu'ils n'ont pas été éduqués dans ce respect de l'autorité. Ils ne respectent pas leurs parents, pour commencer. Et en fait, les parents, souvent, ne respectent rien non plus. Les parents ne respectent pas les policiers. Ils les appellent de tous les noms, ne respectent pas les autorités, ils trichent, ils mentent avec l'État. Et donc les enfants, voyant ça, ils disent pourquoi moi je vais respecter hein, l'autorité. En fait, elle est là pour nous prendre des impôts, elle est là pour nous fliquer. Alors que les autorités sont là, ont été créées par Dieu pour nous protéger. Ce qui est extraordinaire dans cette lettre à Timothée, c'est que quand Paul a écrit, vraisemblablement le roi ou l'empereur de Rome, c'était Néron. Néron était presque quasiment fou. Hein. C'était un criminel pervers. Il a assassiné ou fait assassiner quasiment toute sa famille par paranoïa et il a tué beaucoup de chrétiens d'une façon très, très cruelle. Et Paul dit, priez. Mais pourquoi prier pour Néron ? Mais parce que, justement, pour que les chrétiens soient protégé. Il dit, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, et pas dans la persécution et l'angoisse permanente, en toute piété et honnêteté, qu'on puisse obéir à Dieu sans être embêté pour ça. Parce que le fait d'être chrétien, déjà, vous étiez persécuté parce que vous adoriez le Seigneur Jésus. Les chrétiens, pendant longtemps, se sont réunis dans des forêts en cachette à l'aube. Et ça existait aussi en Chine, encore récemment, et peut-être toujours d'ailleurs, hein, à cause du gouvernement communiste, les chrétiens de Chine se réunissaient dans les forêts, se donnaient des rendez-vous secrets, et ils étaient parfois plusieurs centaines dans un bois, et ensuite ils se dispersaient pour aller au travail, comme les premiers chrétiens. Mais ce n'est pas la meilleure façon d'exercer son culte. L'idéal, c'est d'être libre. Nous avons ce privilège en France d'être libres, d'adorer. On a même une grande liberté, plus qu'aux États-Unis, par exemple, pour évangéliser dans les rues. On nous embête beaucoup moins à Paris pour évangéliser dans la rue. Mais néanmoins, si nous voulons que ça dure, il faut prier pour les autorités, prier pour le président, les députés, parce qu'ils ont d'immenses responsabilités et ils peuvent décider ou non de notre liberté de culte. Nous devons aussi prier, je crois, pour ces projets de loi qui vont venir, l'un sur le mariage et l'adoption homosexuel et l'adoption d'enfants, l'autre sur l'euthanasie. Et ce sont des sujets moraux très graves. Et nous devons prier pour les députés qui vont discuter et voter ces lois. Cela est bon et agréable devant notre Dieu, dit le verset 3. Donc c'est bon et agréable à Dieu qu'on prie pour les rois, les autorités, et qu'on prie en fait pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Mais il avait dit au verset 1, priez pour tous les hommes. Alors vous me dites, mais comment je vais prier pour tous les hommes? Il y a 6 milliards d'êtres humains, je ne vais pas prier pour 6 milliards d'êtres humains. Mais en fait, ici nous avons l'explication, verset 4. Parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Voilà pourquoi on doit prier pour tous les hommes. Parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Nous avons besoin de croire cela, de l'accepter, de le comprendre. Et je me souviens quand j'étais jeune chrétien, quelqu'un avait dit, mais tu as remarqué dans le Nouveau Testament qu'il n'y a jamais de prière pour les incroyants. Toutes les prières de Jésus, de Paul, c'est pour les croyants. Ben c'est faux. C'est joli, mais c'est faux. Puisqu'ici, il dit bien hein, qu'il faut prier pour tous les hommes et parce que Dieu veut qu'ils soient sauvés. Donc on doit prier pour les perdus. Et on doit prier pour tous les perdus. Et on doit prier que tous les hommes soient sauvés. Parce que c'est la volonté de Dieu. Dieu le veut. Alors, la question, c'est pourquoi tous ne sont pas sauvés? Pourquoi il y en a qui meurent sans être sauvés? Puisque Dieu veut qu'ils soient sauvés. Parce que il y a ce que Dieu veut. Il y a ce que Dieu a fait pour qu'ils soient sauvés en mourant sur la croix pour tous. Mais il y a aussi la réponse des hommes. Il y a des hommes qui refusent de se repentir. On le voit dans le Nouveau Testament, de nombreux endroits, des hommes qui se rebellent, qui, devant la vérité, disent non. Dans l'évangile de Jean, hein, au chapitre 3, on connaît bien Jean 3,16, « Dieu a tant aimé le monde ». Là encore, hein, il a aimé tout le monde. Mais après, il dit que celui qui croit, verset 18 de Jean 3, celui qui croit en Jésus n'est pas condamné, mais celui qui ne croit pas est déjà condamné parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, cette condamnation, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. La lumière de Christ a éclairé tout homme, mais il y a un certain nombre qui refusent cette lumière. Non, je ne veux pas de la lumière de Dieu dans ma vie. Et ceux-là se condamnent eux-mêmes. Et ceux-là sont perdus. Alors que Dieu veut que tous soient sauvés. Je ne peux pas, à ce moment du message, ne pas citer Jean Calvin, qui dit l'inverse. Dans ses institutions, il dit « Nous appelons prédestination le conseil éternel de Dieu par lequel Dieu a déterminé ce qu'il voulait faire de chaque homme. Car il ne les crée pas tous en pareilles conditions, mais il ordonne les uns à la vie éternelle et les autres à l'éternelle damnation. » Donc Calvin explique ici que nous ne sommes pas tous créés pareils. Il y en a qui ont été créés pour la vie éternelle, et d'autres qui ont été créés pour la damnation éternelle. Cela est contredit par ce verset que nous lisons ce soir. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. La confession de foi de Westminster, qui est utilisée dans beaucoup d'églises anglophones, protestantes, réformées, calvinistes, par le décret de Dieu pour la manifestation de sa gloire, certains hommes et certains anges sont prédestinés à la vie éternelle et d'autres préordonnés à la mort éternelle. Alors déjà, je ne sais pas où c'est marqué la différence dans la Bible, prédestiné, préordonné, mais surtout, c'est encore cette idée, certains, un nombre limité qu'ils appellent les élus. Ce que nous voyons ici dans ce passage, c'est que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu veut les éclairer pour qu'ils voient, qu'ils entendent la vérité et qu'ils l'acceptent dans leur vie. Même le pire des hommes, et là, on ne pouvait pas s'empêcher de penser à Néron. Quand on pensait à Néron, à sa cruauté, on disait à celui-là qu'il périsse en enfer. Hein. Pensez à Hitler. Quand il est mort, tout le monde a dit « bon débarras hein, » ou « Staline ». Mais néanmoins, un chrétien devrait prier de leur vivant pour ces personnes-là, pour leur salut, parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et il dit « car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur », c'est le verset 5. Et c'est important de rappeler que nous, chrétiens, nous croyons en un seul Dieu. Ce n'est pas parce que nous croyons en la Trinité que nous croyons en trois dieux. Nous croyons en un seul Dieu qui s'est manifesté sous la forme du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais ce seul Dieu a aussi un seul médiateur. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi nous avons besoin d'un médiateur? Médiateur, c'est quelqu'un qui fait le lien entre vous et l'autorité. Il y a un médiateur, des médiateurs de la République en France, qui joue un rôle important, parce que lorsque vous avez un conflit avec l'administration, normalement, vous avez peu de chances de gagner. Hein. L'administration, c'est... vous écrase et vous êtes en face. « Oui, mais je ne suis pas d'accord. » Oui, mais Toi, t'es rien, nous, c'est l'administration. Et donc, ils ont créé un médiateur de la République qui vous permet de communiquer de façon humaine. Parce que l'administration, c'est plus humain, c'est un grand machin, avec des lois, des décrets, des bureaux, et on vous traîne de bureau en bureau, et tout le monde se défausse, c'est-à-dire, ah ben c'est pas moi qui décide, allez voir dans le bureau voisin. Tandis que le médiateur, il prend sur lui. Bon, alors, quel est votre problème avec l'administration? D'accord, ensuite il va voir les autorités administratives, voilà, est-ce que c'est juste ou pas? Et il va vous défendre si vous avez besoin d'être défendu. Je trouve que c'est vraiment une très bonne idée et on n'y pense pas toujours lorsqu'on a des conflits. Surtout, je pense que c'est gratuit. Eh bien, Dieu a envoyé un médiateur, le seul médiateur, Jésus-Christ. Parce que pour venir à Dieu en tant qu'homme pécheur, c'est très difficile. Nous sommes vraiment pécheurs, vraiment souillés, sales. Nous ne méritons même pas que Dieu nous regarde. Et d'avoir un médiateur, c'est merveilleux parce que Christ fait le lien, il nous ramène vers Dieu, hein, il nous monte vers Dieu. Pourquoi c'est le seul médiateur? Parce que, le verset le dit, hein, il s'est donné lui-même en rançon pour tous. Pour qu'il soit médiateur, il fallait qu'il donne sa vie pour nous. Les saints catholiques ne sont pas médiateurs. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'il y a un seul médiateur. La Vierge Marie n'est pas médiatrice. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'il y a un seul médiateur, Jésus. Il y a un seul nom qui a été donné par lequel nous devions être sauvés, Jésus-Christ. Il n'y a pas deux noms, il n'y a pas trois noms. J'ai essayé de comprendre le dogme catholique à ce sujet. Ça a été rajouté hein, d'année en année. Jean-Paul II a été celui qui a le plus fait pour faire de la Vierge la co-médiatrice, la co-rédemptrice avec Jésus. Et avec une tournure de phrase jésuitique, hein, ils disent « Marie est co-médiatrice et co-rédemptrice, mais cela n'enlève rien au fait que Jésus est le seul médiateur. » C'est texto, hein, je vous dis la phrase. Je dis, donc, elle est médiatrice avec lui, mais ça n'enlève rien qu'il est le seul médiateur. C'est contradictoire, ce n'est pas logique, il y a un illogisme total dans la phrase. Et les pauvres catholiques, je dis vraiment les pauvres catholiques, sont laissés avec la confusion comme ça, complètement confus. Oui, il y a Jésus, oui, mais il y a Marie, et lequel choisir? Ben, tu choisis, ben Marie, elle est quand même plus compatissante, parce qu'elle est comme une mère, c'est une femme, elle te comprend. Jésus, il est sévère, hein, attention, Jésus. Et c'est comme ça qu'on présente les choses, et on éloigne les gens de Jésus-Christ. Et dans les faits, c'est vraiment ce qui se passe. Une majorité de catholiques passent plus de temps vers la Vierge que vers Jésus. Il suffit d'aller dans une église, de voir là où il y a les deux chapelles, le nombre de cierges pour la Vierge est toujours 5 ou 6 fois plus. Alors que la Bible est claire, encore une fois ici, il est le seul médiateur. Pourquoi? Parce qu'il est le seul qui a donné sa vie sur une croix pour nous. Marie n'est pas morte pour nos péchés. Saint Pierre, Saint Paul, Saint Jacques ne sont pas morts pour nos péchés. Jésus seul est mort. Il est le seul Messie, le seul médiateur. Il s'est livré en rançon. Le mot rançon est un peu troublant pour nous, parce que quand on pense à rançon, on pense à otage. Hein. Combien donnez-vous en rançon pour cet otage? En fait, là, ce n'est pas l'idée d'otage, c'est un mot que Paul emploie qui veut dire le prix qu'on paye pour racheter un esclave, pour le libérer. Et là, ça prend tout son sens. Jésus a donné sa vie comme prix pour nous racheter de l'esclavage. Nous étions esclaves, perdus, incapables de nous délivrer nous-mêmes du péché et de la condamnation. Et le Seigneur est venu nous acheter en versant son sang, en donnant sa vie. Il a payé de sa vie notre prix. Ce n'est pas qu'il a donné un petit peu d'argent ou de l'or. Il a donné sa vie pour que nous, on soit libérés des chaînes du mal, de la condamnation et aussi du diable. Voilà pourquoi Jésus est le seul médiateur. Voilà pourquoi nous devons prier pour tous les hommes, parce que Jésus s'est livré en rançon pour tous, verset 6. Franchement, si on n'a pas compris, prier pour tous les hommes. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Jésus-Christ est mort pour tous. Ce que Dieu révèle ici, c'est qu'il est le Dieu de grâce et d'amour pour tous les hommes. Que tout le monde a une chance d'être sauvé. Parce que Jésus-Christ est mort pour tous les hommes. Et il affirme ces choses au verset 7 en disant « C'est là le témoignage rendu en son propre temps pour lequel j'ai été établi, prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi. » Pourquoi parle-t-il des païens? Parce que d'abord, Paul est l'apôtre des païens. C'est son appel particulier d'aller prêcher l'évangile aux non-juifs, aux grecs. Tandis que Pierre, lui, avait un appel particulier pour s'occuper du peuple juif. D'ailleurs, il a passé tout son ministère. Même l'épître de Pierre s'adresse aux juifs de la diaspora. Hein? Si vous regardez le premier verset de son épître. Et Pierre était l'apôtre des juifs et Paul l'apôtre des païens. Et Paul défend son ministère en disant « Dieu veut que les grecs aussi soient sauvés ». Dieu veut que les barbares aussi soient sauvés. Il dit ça dans l'Épître aux Romains. Je me dois à tous et aux barbares, aux savants comme aux ignorants. Pourquoi? Parce qu'il y avait chez certains juifs et chez certains grecs cette idée que les peuples barbares, n'est-ce pas, les Celtes et les autres, les Allemands, enfin tous les Saxons et les Francs et tout ça, tous ces peuples étaient d'affreux barbares brutaux, des hommes préhistoriques quasiment. Et donc, ils n'avaient quasiment pas d'âme, ces gens-là. Et en parlant de ne pas avoir d'âme, c'est très récemment qu'on a commencé à évangéliser certains peuples. Les Indiens d'Amérique, l'Afrique, l'Asie. Il y a même certains qui disaient que les femmes n'avaient pas d'âme. Donc, n'avaient pas d'intérêt particulier autre que leur corps. Et je me souviens de David Brainerd, ce jeune chrétien américain qui est allé évangéliser les Indiens. Si vous tombez sur sa biographie, lisez-la. C'était un homme de prière, de foi et de persévérance qui est mort à 30 ans ou 29 ans de froid parce qu'il évangélisait là où il faisait assez froid. Il est allé vers les Indiens à une époque où ça ne se faisait pas. On disait, mais ce sont des barbares. Regarde leur culte, ils vénèrent des animaux, ils font du chamanisme avec les démons. Ah, mais David Brainerd dit, mais au contraire, il faut aller leur dire la vérité. Dieu veut qu'ils connaissent la vérité. Dieu veut les éclairer. Il veut que tout soit sauvé. Et il est allé prêcher à ces Indiens. Et juste pour résumer cette histoire qui est magnifique, hein, il a cherché d'abord un traducteur, parce que dans ces tribus, ils ne parlaient que leur langue, que leur dialecte. Et il a trouvé un homme qui connaissait un peu d'anglais, qui a pu traduire, sauf que c'était un alcoolique invétéré. Il était ivre la plupart du temps, et quand David voulait parler au chef ou à la tribu, il avait un traducteur ivre. Ça devait être quand même assez frustrant. Qu'est-ce qu'il doit leur raconter? C'est pas possible. Sauf qu'un jour, le traducteur a été touché par le Seigneur. À force de répéter l'évangile, hein, et de trouver les mots pour le dire à son peuple, ça a fait une lumière en lui. Et il est devenu chrétien, il a arrêté de boire, il est devenu l'évangéliste avec David Brainerd. Et puis plusieurs dans la tribu se sont convertis. Voilà l'œuvre de Dieu, l'œuvre de la grâce. Et voilà pourquoi on doit prier pour tous les hommes. On doit prier pour le salut des Parisiens. Les Parisiens sont des durs à cuire. Les Parisiens, les Français, sont des gens, comme je le répète, endoctrinés contre Dieu dans l'athéisme. Quand vous parlez de la Bible dans la rue, vous avez toutes les populations, tous les peuples, toutes les langues qui viennent, sauf le français. Par définition, le français rejette la Bible par principe parce qu'il a été éduqué comme ça. Et il y a des pasteurs, des missionnaires qui se découragent avec les Français. Ils disent, oh, de toute façon, les Français sont maudits ou je ne sais pas. Et les Français ne sont pas maudits, plus que les autres. On est tous maudits à cause du péché. Mais les Français, Dieu veut sauver tous les Parisiens, tous les Français, comme tous les hommes du monde, toutes les femmes, les enfants, qu'ils soient riches ou pauvres, savants ou ignorants. Et quelquefois, on méprise certaines personnes, hein, publiques, dit « Regarde-le, qui se prend, regarde celui-là, il est trop riche, ou celui-là, il est vraiment satanique. » Mais en fait, on devrait prier pour ces personnes. Pas simplement décrire leurs péchés, parce qu'on est tous pécheurs. On devrait prier pour leur salut. C'est étonnant, les personnes que Dieu a sauvées. Je pense à Paul, on l'a vu la dernière fois. Paul était le pire ennemi du christianisme. Il est là pour nous témoigner que le pire ennemi peut devenir le meilleur ami. On peut prier pour nos amis, nos proches musulmans. L'islam se radicalise et parfois on voit ces musulmans comme des ennemis avec leur barbe, leur djellaba et leur Coran ou leur volonté d'imposer la charia partout. Et ils sont des ennemis parfois de la République ou de militaires par le terrorisme. Mais il faut prier pour leur salut plutôt que juste de dire « Ah, les musulmans ». Il faut prier pour leur salut. Et en priant, Dieu va nous donner l'occasion de leur parler parce que quand on va les rencontrer, la prière va nous appuyer. Et dans la prière, il y a de l'amour aussi. Hein. On ne prie pas pour quelqu'un sans l'aimer d'une certaine façon. Je terminerai ce soir avec le verset 8. « Je veux donc que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. » Puis après, il dit « Je veux que les femmes... » Donc là, il s'adresse aux hommes masculins. Et un certain nombre d'exhortations qu'il donne sont données pour l'Église. Puisque Timothée est un pasteur, il dit « Voilà comment on doit se conduire dans l'Église du Dieu vivant. » Et il dit « Je veux que les hommes prient. » Et ce qui est frappant dans les églises, c'est qu'il y a plus de femmes qui prient que d'hommes. Soit que les hommes soient timides, soit encore une fois que les hommes disent « Oh mais la prière, bon ben on fait rien, on est là, on parle à Dieu. Bon. » Et on a besoin, nous les hommes, de réaliser que la prière c'est de l'action. Une action très très puissante. Parce que c'est l'action qui vient de Dieu. Prier en tout lieu en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Encore une fois, pour prier et être exaucé, il faut avoir des mains pures, c'est-à-dire il faut être pur dans sa vie. Il faut être quelqu'un qui n'a pas d'esprit de vengeance ou qui ne prie pas avec la vengeance hein, dans l'esprit, mais avec l'amour. Qui n'a pas de mauvaise pensée, mais qui au contraire cherche le bien. La prière, c'est pour bénir, c'est pour intercéder. C'est pour plaider pour les autres, c'est pas pour les maudire. Voilà ce que le Seigneur veut, qui est le plus important et à côté duquel on passe. Très souvent, on fait passer tout devant la prière. Quand le Saint-Esprit nous pousse à prier, on dit « Oui, mais là, il faut que je fasse la cuisine, là, il faut que je fasse une course, là, il faut que je fasse ceci. » Alors que Dieu veut que l'on prie beaucoup. Il dit même « Prier sans cesse ». Il y aurait beaucoup à dire sur la prière, donc je vais m'arrêter là. Mais ici, nous avons vu l'importance de supplier, d'avoir cette entrevue avec Dieu, d'avoir cette supplication intense pour les perdus, pour les autorités de notre pays et pour tous les hommes, quels qu'ils soient, gentils ou mauvais, moraux ou immoraux, ils ont besoin de connaître la vérité et d'être atteints par l'Évangile. J'ai terminé pour ce soir, mais je propose donc qu'on ait un court moment de prière à haute voix. Donc plusieurs s'adressent au Seigneur et qu'on puisse tous dire Amen. Et s'il vous plaît, ne soyez pas longs et que plusieurs, l'un après l'autre, et je terminerai.